Écoute. Écoute.
Bonjour, c'est le retour de ce podcast Comprendre le monde pour la troisième saison. Donc première édition de cette troisième saison et on va parler du Brésil. Le Brésil qui est au cœur de l'actualité avec la querelle entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro, le président brésilien, avec le problème de l'Amazonie, le poumon du monde, mais qui est sous souveraineté brésilienne. Et pour en parler, eh bien, le plus adapté était de s'adresser à Christophe Ventura, qui est à l'IRIS et qui est un spécialiste du Brésil. Christophe Ventura, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'abord, dans un premier temps, comment présenter, qu'est-ce que représente l'Amazone pour les Brésiliens? Est-ce que c'est une querelle Emmanuel Macron, Jair Bolsonaro, ou est-ce que plus largement, les Brésiliens ont un lien particulier avec l'Amazone?
L'Amazonie est quelque chose qui est consubstantiel à l'identité nationale brésilienne. C'est une mystique quasiment de la nation brésilienne. Et en particulier pour les forces armées du Brésil, de sa république, depuis la fin de la période coloniale, l'Amazonie a toujours été, disons, le cœur en réalité de la mission majeure, la mission ultime des forces armées militaires, étant de protéger l'Amazonie et ses ressources comme étant évidemment quelque chose de déterminant et pour le fonctionnement de la planète, mais qui revenait justement au Brésil d'en être le garant et d'en être celui, le pays qui va en quelque sorte maintenir l'importance de l'Amazonie au niveau international. Donc oui, l'Amazonie fait partie, disons, de l'ADN de la nation brésilienne et il faut dire les choses comme elles sont. Au Brésil, il y a un certain nationalisme amazonien qui touche et qui traverse toute la société au-delà des affinités politiques. Il faut rappeler aussi que l'Amazonie, c'est une terre vraiment ancrée dans la société brésilienne. C'est pas un lieu sauvage en dehors du Brésil. C'est une forêt qui touche à peu près 8 ou 9 États brésiliens et dans laquelle vivent 20 millions de Brésiliens, dont 1 million donc de population autochtone ou dite indigène.
Donc quand on parle de l'Amazonie et qu'on suscite les réactions qu'ont suscité les propos du président, on ne s'attaque pas seulement à Jair Bolsonaro, quelque part, c'est l'ensemble des Brésiliens qui, toutes tendances confondues, sont unis pour avoir une certaine conception de la forêt amazonienne et de l'Amazonie.
Tout à fait. D'ailleurs, il faut remarquer que dans l'évolution de la crise, quand on la regarde depuis le côté brésilien, c'est en fait la stratégie qu'a commencé à développer Jair Bolsonaro pour contre-argumenter ou lancer une contre-offensive contre Emmanuel Macron, justement finalement en abandonnant un petit peu son premier discours sur « c'est une conspiration contre moi », il s'agit d'incendies qui ont été lancés par les ONG pour décrédibiliser le gouvernement de Jair Bolsonaro. Il allait mis ça de côté assez rapidement pour finalement essayer de tirer la corde d'une sorte d'ingérence ou d'un comportement de type colonialiste d'Européens qui voudraient en fait en réalité venir, comme il le dit lui-même, ce sont ses mots, hein, instrumentaliser la question amazonienne pour des questions d'influence et d'ingérence d'un pays européen. Donc il a joué beaucoup dans une seconde étape sur cette fibre amazonienne au Brésil. Et il faut dire avec un certain succès, puisque assez rapidement, cette question, même si l'opération, les déclarations de Macron étaient plutôt bien reçues au Brésil, il y a quand même eu cette réserve, hein, en disant attention, il faut quand même pas discuter la question de l'Amazonie comme ça, l'emporte-pièce, et la question de discuter un statut international de l'Amazonie, puisque c'était ça la formulation du président Macron, est quelque chose qui a, disons, retenu l'attention des Brésiliens au-delà de Jair Bolsonaro, de son propre camp.
Donc mettre en cause la gestion de Bolsonaro du problème amazonien peut être populaire au Brésil pour ceux qui veulent lutter aussi pour la protection du climat. On se rappelle qu'il y a quand même des mises d'environnement au Brésil, qu'il y a un parti vert également, mais c'est donc cette phrase un peu malheureuse du statut international qui a été le chiffon rouge et qui du coup a permis à Bolsonaro de fédérer autour de lui, y compris des gens qui étaient en désaccord avec lui.
Oui, il a réussi un peu ça, il faut l'admettre. Il a réussi à retomber sur ses pattes, se faisant en sortant de ses premières déclarations, en disant bah, désormais on va effectivement réfléchir à la question de l'Amazonie et de sa contribution, disons, à la séquestration du carbone et de l'impact que peut avoir là-dessus la déforestation. Les incendies, mais on va le faire de manière régionale. C'est pour ça qu'il a proposé avec le président colombien, qui est un autre des 9 pays amazoniens, il a présenté avec Iván Duque, il a proposé le 6 septembre d'ailleurs une réunion, disons, des pays amazoniens qui sont membres de l'organisation du traité de coopération amazonien. La France n'est pas dedans. La France, qui a une partie amazonienne avec la Guyane et son parc régional, n'est pas membre de cette organisation, il en est membre observateur. Mais ils vont se réunir le 6 septembre pour proposer un pacte régional régionale sur l'Amazonie qui sera portée ensuite à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations Unies fin septembre à New York. Donc c'est de cette manière-là que Bolsonaro a essayé de manœuvrer finalement et de lancer sa contre-offensive sur la proposition d'Emmanuel Macron.
Alors au-delà de cette sensibilité toute particulière et très vive des Brésiliens sur la souveraineté, sur l'Amazone, est-ce qu'il y a par contre des arguments pour plaider le fait que ces incendies ne sont pas seulement naturels, qu'ils sont bien sûr naturels, mais que Bolsonaro, sa politique, sa gestion, a une part de responsabilité dans le, non pas les incendies, mais dans leur multiplication et leur développement?
Bien sûr, les faits de ce point de vue-là sont assez clairs. D'une part, le problème a commencé avant Bolsonaro, puisque dès 2016, avec l'arrivée au pouvoir de M. Temer, du gouvernement non élu qui a dirigé le Brésil
deux ans.
Donc
celui qui a succédé à Dilma Rousseff. Voilà. Et qui a été investi de façon peu démocratique.
Voilà, après ça, la destitution de la présidente, et surtout qui a été investi en n'étant pas élu, en fait, qui a présidé le Brésil pendant deux ans. Dès ce moment-là, c'est ces deux années où on a commencé à détricoter les réglementations de protection sur l'Amazonie, à signer des décrets qui ouvraient finalement l'Amazonie à de nouveaux types d'exploration, en particulier minière, etc. Donc ça fait déjà deux ans que le terrain était préparé. Et puis l'arrivée de Bolsonaro a accéléré les choses. Alors, les chiffres sont implacables, parce que des feux de forêt, il y en a toujours, en Amazonie, il y a toujours eu, mais disons que là, ils ont augmenté en un an de plus de 80% pour ce qui est des feux de forêt. La déforestation, elle, a augmenté de 300% en un an, et puis là, on vient d'apprendre que au mois d'août, le bilan, c'est à peu près 30 000 départs de feux qui ont eu lieu au mois d'août 2019 en Amazonie, contre 10 000 en 2018. Donc il y a une explosion.
Alors, comment l'expliquer,
cette explosion? Ça s'explique par rapport à la déforestation essentiellement, puisque déjà en 2016-2017, il y avait beaucoup de sécheresse, mais il y avait moins de départs de feu et de déforestation. Donc c'est pas l'augmentation de la sécheresse qui explique les départs de feu. Ce qui explique les départs de feu, c'est une sorte d'impunité finalement qui est laissée au secteur de l'agro-business pour pouvoir défricher sans avoir de sanctions, puisque aujourd'hui on détricote les lois qui protège l'Amazonie et qu'on laisse finalement la déforestation augmenter à mesure que le lobby de l'agro-business exporte au niveau international. Donc c'est bel et bien ça qui est la cause
essentielle. Pour faire court et pour résumer, pour bien faire comprendre aux auditeurs, on met le feu à la forêt pour pouvoir avoir les terres cultivables, des terres exploitables. Et auparavant, il y avait des sanctions qui pouvaient être sévères. Mais là, quoi qu'il se passe, vous enfreignez la loi. Il n'y a pas de sanctions, donc il y a un intérêt économique à la déforestation.
Alors voilà, pour être simple, il y a des feux de forêt qui sont légaux. On brûle la forêt de manière légale, et puis il y a surtout ce qui est illégal. En tout état de cause, l'un comme l'autre, c'est directement adossé sur le fait de convertir les terres amazoniennes en terres agricoles pour y venir faire élever les bœufs et puis le soja qui partent à l'exportation. C'est ça le fond du sujet pour l'Amazonie. Donc oui, c'est ça qui est au départ. Et ensuite, il y a eu, par exemple, une déréglementation. Lorsque, avant, vous étiez pris en flagrant délit de brûler de la forêt de manière illégale, vous aviez une peine de prison de 4 ans, qui était, par exemple, c'était la loi. Bah, ça a été enlevé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette sanction et cette condamnation si on vous prend à le faire. Donc, c'est quelque chose qui, si vous voulez, ne permet une impunité. C'est ça, le fond de l'affaire. C'est que ça crée des conditions où on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, en quelque sorte, pour les stimuler, les favoriser dans cette déforestation.
Mais Bolsonaro avait annoncé la couleur. Au cours de la campagne électorale, il avait annoncé qu'il allait donner la priorité à ce qu'il appelle le développement et que, selon lui, il y a des terres riches, inexploitées, et que si on retire un peu de forêt, on peut plus faire d'agro-business. Donc finalement, ce n'est pas tellement une surprise.
Non, ce n'est pas une surprise, mais là, on voit les conséquences dramatiques de cette politique, parce qu'effectivement, Bolsonaro a toujours, dit ce que vous dites. Sa campagne, il l'a faite en partie là-dessus. Il a fait ce qu'il a dit, puisqu'il a donné le ministère de l'Agriculture, qui est autrement plus puissant que notre en France. Le ministère de l'Agriculture, c'est un État dans l'État au Brésil, parce que justement, c'est tout le secteur de l'agronégoce. Le ministère de l'Agriculture appartient désormais, est tenu par quelqu'un, Teresa Cristina, qui est une des éminentes représentantes du lobby ruraliste, comme on dit au Brésil, donc du secteur de l'agro. Quand il est arrivé au pouvoir, il a mis à la tête de l'équivalent de l'Office national des forêts quelqu'un qui est aussi membre de ce groupe des ruralistes au Brésil. Il a fait démissionner des scientifiques qui alertaient depuis son arrivée au pouvoir sur la déforestation accrue de l'Amazonie. Ils ont démissionné. Donc oui, il a fait ce qu'il a dit, et effectivement, depuis le départ, sa politique est bien celle-là, puisque lui lit directement la question de la souveraineté amazonienne, la question de son développement économique, mais entendu comme un développement de type extractiviste, c'est-à-dire un développement qui vise à exploiter les ressources de la forêt pour les convertir en produits d'exportation sur les marchés internationaux. Et c'est ça son projet pour l'Amazonie.
Est-ce qu'au Brésil, il y a un soutien à une politique d'environnement? Est-ce que les réflexions du monde extérieur sont perçues comme des atteintes inadmissibles vis-à-vis de la souveraineté brésilienne, ou est-ce que il y a des secteurs de l'opinion qui disent non, quand même, il faut être responsable et on ne peut pas comme ça gâcher, brûler la forêt amazonienne?
La question amazonienne est toujours un enjeu politique au Brésil, et ça n'a jamais été une question simple, que ce soit pour la gauche ou la droite. Il y a pas, même sous la gauche et sous Lula, les tensions et les frictions étaient fortes avec beaucoup de secteurs de la société qui justement effectivement sont impliqués et mobilisés pour la défense de l'Amazonie, étant entendu comme protection d'une zone de ce type de modèle économique là dit extractiviste. Et oui, la société brésilienne est très active là-dessus. Il y a énormément d'organisations paysannes, d'associations, d'ONG qui essayent de lutter pour préserver cette forêt, avec plus ou moins de succès selon les gouvernement, mais par exemple la déforestation a plutôt baissé entre 2002 et 2014. Ça a été
donc les années Lula, Rousseff.
Oui, mais ça s'est fait, sous un rapport de force. C'est-à-dire que ça s'est fait parce que la société civile brésilienne, les populations indigènes, les organisations paysannes, le mouvement des sans terres, la Via Campesina, en quelque sorte, mettaient une pression sur le gouvernement de Lula et sur ce fameux lobby ruraliste qui, si vous voulez, est incontournable parce que il détient à lui seul l'ensemble du commerce extérieur brésilien. C'est-à-dire que le secteur de l'agronégoce au Brésil, c'est 40% des exportations du Brésil au total dans le monde. C'est quasiment un quart des emplois dans le pays. Donc ça pèse, hein, ce secteur-là qui déforeste. Et qui déforeste, lui-même le dit-il, aussi pour répondre à une demande internationale de soja, de bœufs, d'huile de palme, etc. Pour les Chinois, les Européens et les Américains. Donc y compris sous les années Lula, les choses n'ont jamais été spontanément simple sur la question amazonienne, mais il y avait des négociations et il y avait de la déforestation en même temps qu'il y avait un renforcement des réglementations pour augmenter les zones préservées de cette déforestation. C'est ça qui s'est déréglé et qui est détruit depuis 2016 avec l'accélération dont on a parlé sous Jair Bolsonaro depuis un an. Mais oui, la société brésilienne est très mobilisée sur cette question-là, mais il y a aussi beaucoup d'ONG internationales qui le sont, et certains gouvernements qui financent des programmes de reforestation, de préservation, ou qui donnent de l'argent aux États amazoniens en contrepartie de ne pas exploiter justement économiquement les richesses des sous-sols, etc. C'est des systèmes qui existent depuis très longtemps au Brésil et qui sont en permanence, disons, négociés et renégociés en fonction de la couleur politique des gouvernements.
Parce qu'on arrive à cette contradiction, c'est que les Brésiliens peuvent dire c'est chez nous, c'est notre forêt, et les gens extérieurs, le régime, disent non, c'est notre poumon économique. En même temps, la souveraineté existe toujours, donc comment trouver les moyens de faire concilier le respect de la souveraineté brésilienne et le nécessaire développement du Brésil, qui a encore quand même pas mal de gens à sortir de la misère et du seuil de pauvreté, et le fait de protéger ce qui est effectivement, objectivement, le poumon mondial? Comment faire en sorte de pouvoir rendre conciliable ces deux exigences du développement et de la protection de l'environnement, et développement national et protection internationale de l'environnement?
Alors, du côté du Brésil, la réponse, c'est plutôt le développement de la coopération, mais toujours avec le Brésil souverain, c'est-à-dire sans l'Amazonie, conservant un statut brésilien ou régional, puisque encore une fois, l'Amazonie, le Brésil en détient 60%, mais 40% de l'Amazonie appartient à 8 autres pays sud-américains. C'est la réponse des Brésiliens, c'est la coopération, et la coopération régionale, ça a toujours été plutôt ça, et la coopération avec les institutions internationales, type onusienne, etc., avec des systèmes finalement de compensation, c'est-à-dire on ne développe pas, on n'exploite pas la forêt en contrepartie de financements qui nous permettent,
bien de construire des projets d'insertion dans l'emploi des habitants de l'Amazonie, etc., etc. Ça a toujours été à peu près ça jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que la question se pose aujourd'hui de manière assez inédite avec l'accélération du dérèglement climatique et puis surtout l'accélération de la prise de conscience de ce dérèglement dans nos sociétés. Et l'affaire de l'été amazonienne, elle a cristallisé tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse simple à cette question. En tout cas, il est sûr que pour les Brésiliens, la question amazonienne ne peut pas, disons, être extraite de la souveraineté sud-américaine. Ça, c'est certain. Et je crois que sur cette ligne-là, les Brésiliens, indépendamment d'ailleurs de la couleur politique du gouvernement actuel, sont assez en ligne avec les autres Sud-Américains qui perçoivent l'Amazonie comme une ressource sud-américaine et qui n'accepteront pas, disons, une sorte de tutelle internationale, et surtout pas si ça vient de la part des Européens, qui malgré tout renvoient à l'imaginaire colonial. Et là-dessus, Bolsonaro a beau jeu de jouer là-dessus avec Emmanuel Macron parce qu'il a trouvé un fil à tirer sur le sujet.
Donc si on veut avancer sur ce sujet, il faut le faire tout en mettant en avant le respect de la souveraineté, parce qu'il y a forcément, et c'est pas toujours perçu en Europe et dans le monde occidental, il y a toujours le soupçon, effectivement, même si c'était parfois instrumentalisé, mais en tous les cas, on ne pourra avancer qu'en affichant le respect de la souveraineté par des coopérations agréées.
Ah, c'est certain. Je crois que c'est le cadre, en tout cas, dans lequel le Brésil et les pays sud-américains voient le traitement de ce sujet. Encore une fois, je disais au début de l'entretien, on ne mesure pas à quel point cette Amazonie est quasiment... Il y a une mystique amazonienne dans la constitution nationale brésilienne et qui confère, encore une fois, je me répète un peu, mais même aux forces militaires, les forces militaires sont très chatouilleuses au Brésil sur cette souveraineté
Ils ont fait, il y a une quinzaine d'années, les exercices... de mandat à protéger l'Amazonie, là, contre une intervention militaire américaine, était déjà pour le contrôle de l'Amazonie.
Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est résilient, enfin, qui reviendra en permanence, à mon avis, qui n'est pas prêt de changer dans ce pays.
Bolsonaro a été élu, il est contesté, mais il a fait une campagne où, finalement, un peu à l'image de Donald Trump, il a dit ce qu'il allait faire et il fait ce qu'il avait dit sur l'environnement, sur les femmes. Donc il a suscité beaucoup de réserves, beaucoup d'opposition. Il a été néanmoins élu. Là, il a insulté la femme du président de la République, Brigitte Macron. Ça a suscité beaucoup de réactions au Brésil, plutôt en défense là, de Mme Macron.
Tout à fait. Alors là aussi, c'est vrai, en même temps, il faut faire attention aux perceptions, parce qu'il est clair que, disons, l'intervention du président français a fait mouche, et elle a réussi à cimenter au Brésil tous les opposants à M. Bolsonaro, et il y en a beaucoup, quelle que soit, disons, leur provenance et leur couleur politique. Ça a marché, ça a fait mouche, parce que la question d'un président à la hauteur est une formule qui a fonctionné. Les attaques contre Brigitte Macron aussi, et un mouvement féministe très fort au Brésil, parce que Bolsonaro, disons, par son machisme insupportable, a créé, disons, une sorte de contre-réaction dans la société, où le mouvement MeToo, en particulier au Brésil, a été très puissant. C'est un des principaux mouvements sociaux actuellement au Brésil. Donc tout ça a fonctionné. En même temps, attention, parce que je regardais par exemple les derniers sondages et les dernières enquêtes d'opinion après l'affaire, l'épisode amazonien. C'est très étonnant, parce qu'en fait, si M. Bolsonaro est le président qui suscite le plus de rejet dans l'histoire politique brésilienne depuis Fernando Cardoso dans les années 90, c'est bien le cas. Aujourd'hui, c'est lui qui cristallise le plus de rejet dans la population. Son rejet en tant que tel représenterait 38% de la population. Il n'y a que 29% de la population brésilienne qui se dit être satisfait de Jair Bolsonaro aujourd'hui, mais surtout il y a un trou au milieu avec une sorte de centre au Brésil qui finalement n'a ni une mauvaise opinion de lui ni une bonne, et c'est plutôt des gens qui ont une sorte de désillusion par rapport à la classe politique, et c'est ce noyau là aujourd'hui qui est une espèce de noyau inerte finalement dans la société brésilienne, qui fait que Bolsonaro n'est pas non plus encore aujourd'hui, disons, victime d'une vague d'impopularité où il ne représenterait plus que 10 ou 20% de l'opinion.
Donc le rejet dont Bolsonaro est l'objet dans la plupart des pays occidentaux n'a pas encore l'équivalent au Brésil. C'est-à-dire que si on faisait un sondage en France, la très grande, l'immense majorité des Français, voire des Européens, auraient une très mauvaise image de Jair Bolsonaro, mais au Brésil, ce n'est pas encore le cas.
C'est pas encore le cas. Il polarise la société, il radicalise les camps les plus mobilisés dans la société, ceux qui ont le plus de... Les camps les plus politisés sont polarisés, il y a un groupe autour de lui, puis il y a un groupe qui est contre lui, et puis au milieu, il y a encore une majorité de Brésiliens Brésilien qui finalement regarde ça avec une certaine indifférence, n'attendant pas grand chose de Bolsonaro en réalité, et donc de ce point de vue là pour l'instant ça permet pas effectivement de se dire que l'affaire amazonienne a créé un retournement d'opinion au Brésil, même si encore une fois il est le président qui a le taux de rejet le plus fort depuis 25-30 dernières années au Brésil.
Depuis son élection, on a quand même appris de façon certifiée que la justice qui s'en est pris à Lula était instrumentalisée, était à charge, n'était pas réellement indépendante. On se rappelle que Celso Amarim, qui était à ce micro l'an dernier, disait qu'auparavant il y avait des coups d'État militaires et que maintenant on fait au Brésil des coups d'État judiciaires. Donc Lula, donné favori des élections, n'a pas pu se présenter sur la base quand même d'une justice aux ordres et d'un coup d'État judiciaire. Est-ce que ces révélations qui prouvent la non-indépendance des juges qui ont inculpé Lula a changé la perception des Brésiliens?
Pas tellement non plus, parce que, encore une fois, je crois qu'il faut mesurer le niveau d'indifférence, de désillusion, de résignation aujourd'hui par rapport aux institutions, par rapport aux classes politiques, y compris à la représentation judiciaire. Ça fait partie d'un même ensemble. Je crois que le Brésil nous dit beaucoup sur ces pays qui sont traversés par ces formes de, finalement, de dégagisme, hein, qui c'est comme ça que ça s'exprime, finalement, sur le plan politique, et qui sont surtout des formes de désaffiliation, en fait, des populations avec tout leur système institutionnel en général. Et de ce point de vue-là, y compris les révélations désormais assez accablantes, effectivement, sur la partialité et les collusions au sein de la justice entre le politique et les accusateurs de Lula, puisque maintenant, effectivement, on sait qu'il a été accusé sans preuve tangible de ce pourquoi on l'a accusé, etc., et que tout ça avait un but politique de l'empêcher de se présenter. Ça mobilise encore une fois les strates, disons, militantes et intellectuel de la vie brésilienne. Ça compte, ça a une influence, ça crée aussi des relais au niveau international. Mais aujourd'hui, la population brésilienne, je crois qu'elle est surtout enferrée un petit peu dans ses difficultés quotidiennes, qui sont immenses, qui sont liées à l'approfondissement d'une crise économique et sociale, dont on parle pas beaucoup, mais qui se manifeste par une explosion des inégalités, un accroissement du chômage très important, une précarisation de la vie quotidienne, qui aujourd'hui fait que c'est surtout ça, en fait, qui, disons, mobilise les Brésiliens, c'est leur quotidien. Et, encore une fois, la crise de confiance n'est même plus une crise de confiance, c'est une vraie crise de défiance, mais qui s'exprime par une forme de résignation, hélas, aujourd'hui au Brésil. Et c'est un enjeu très important pour toutes les forces de progrès dans ce pays qui ont été sacrément, disons, bousculées et sanctionnées même, hein, ces dernières années politiquement. Donc c'est pour ça que tout ce qui se passe au Brésil nous dit que ce pays est encore dans une vraie crise structurelle, une crise démocratique, c'est pas simplement une crise conjoncturelle.
L'économie brésilienne se porte mieux depuis l'élection de Jair Bolsonaro?
Alors, si on prend des chiffres froids, on a tendance à dire oui, puisque le Brésil n'est plus en récession. Or, il l'était encore il y a 2-3 ans en arrière. Il retrouve une croissance assez modeste, mais une croissance quand même. Le problème, c'est que, encore une fois, la crise, elle passe par l'augmentation de ce chômage, par une augmentation encore aussi de l'informalité dans le travail. Il y a de plus en plus de gens au Brésil qui retrouvent cette situation où vous travaillez, en fait, sans contrat de travail, au noir, etc. etc. Donc c'est ça la difficulté pour les Brésiliens, c'est que le gouvernement mène des politiques de restriction budgétaire très importantes. Et puis l'autre actualité brésilienne, c'est une réforme du système des retraites qui est un peu sur le même mode qu'on connaît en Europe, et qui là va se traduire aussi par une réduction finalement des protections, hein, pour les Brésiliens.
Et en même temps, le régime était plus que généreux.
Alors, il était généreux pour certains, en particulier les militaires, pour lesquels oui, c'était un système très généreux, et pour certains secteurs, disons, qu'on appellerait nous des régimes spéciaux, mais pour la plupart des Brésiliens, c'est quand même un système qui est quand même assez modique, hein, en termes de protection de retraite. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que réforme va être un vrai test pour M. Bolsonaro. Elle devrait intervenir là avant la fin de l'année 2019. Et justement, c'est un des sujets sur lesquels se mobilise aussi la société brésilienne. C'est pour empêcher cette réforme qui est exigée par les marchés financiers, etc., pour, par exemple, baisser la note de risque sur la dette brésilienne. Les grandes agences de notation exigent en fait cette réforme pour que disons, l'endettement de l'État brésilien descende un petit peu. C'est une des exigences qu'ils ont. Et c'est ça qui va aujourd'hui être un autre temps fort de l'actualité politique et sociale.
Merci Christophe Ventura pour ce tour d'horizon sur le Brésil, pour cette reprise du podcast Comprendre le Monde.